DFM. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1. Je suis votre animateur Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 11, aussi appelé l'épisode Sergio Pérez. Le 11 est le numéro de course du pilote mexicain en F1 depuis 2011. Il a débuté sa carrière chez Sauber et, à sa deuxième année, en 2012, il a inscrit 3 podiums, dont une magnifique deuxième place en Malaisie 2012, alors qu'il se battait pour la victoire contre Fernando Alonso dans le temps chez Ferrari. Au terme d'une deuxième saison magnifique, il signa un contrat chez McLaren en 2013 en remplacement de Lewis Hamilton qui est parti chez Mercedes. Sa campagne 2013 fut un échec et fut remercié par McLaren. Il partit chez Force India en 2014 et enregistra un podium mémorable lors du Grand Prix de Bahreïn. Il fut de même en Russie 2015, Monaco et Azerbaïdjan 2016 et 2018. Il est maintenant pilote numéro 1 chez Racing Point, équipe ayant hérité des cendres de Force India, placée en administration en 2018, justement grâce à Pérez. Au fil des années, le Mexicain est devenu un pilote constant et rarement agressif avec les pneus. Au menu cette semaine, on revient sur le magnifique Grand Prix d'Autriche qui a vu un pilote non Mercedes gagner pour la première fois en 2019. De qui s'agit-il? Mais après avoir parlé de ce Grand Prix d'Autriche en Formule 1, on va passer à notre segment classique en route vers la F1 avec les courses de Formule 2 et de Formule 3 en Autriche. Pour un deuxième Grand Prix consécutif, je serai seul à la barre puisque Brian Wimmett, mon co-animateur, a eu un autre empêchement de dernière minute. Mais rassurez-vous, pour ceux qui voulaient encore voir sa voix sexy, il sera là pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, espérons-le. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, car c'est un départ! D'un extrême à l'autre, c'est ce qu'on pourrait dire des deux derniers Grands Prix de Formule 1 en 2019, actuellement. En France, la semaine dernière, on a eu droit à la pire course de l'année. Et en Autriche, ben, ce fut l'inverse. Je ne blague pas du tout. On a assisté à la meilleure épreuve en 2019. Si vous avez manqué le Grand Prix, ben, allez regarder tout de suite les faits saillants de cette course. Quitte même à interrompre la lecture de ce podcast. Et évidemment, à continuer après avoir regardé les faits saillants. Sinon, voici les résultats et vous allez comprendre pourquoi. Le vainqueur de la course est Max Verstappen sur Red Bull. Deuxième, Charles Leclerc sur Ferrari. Et troisième, Valtteri Bottas sur Mercedes. Ensuite, on a en quatrième place Sebastian Vettel. Lewis Hamilton, surprise, cinquième. Lando Norris sur McLaren, sixième. Pierre Gasly, 7e sur l'autre Red Bull. 8e, Carlos Sainz. 9e, Kimi Raikkonen. Antonio Giovinazzi, qui inscrit finalement ses premiers points en Formule 1. 11e, Sergio Pérez sur la première des deux Racing Point. 12e, Nico Hülkenberg. 13e, Lance Stroll. 14e, Daniel Ricciardo. 15e, Alex Albon. 16e, Romain Grosjean. 17e, Dani Kvyat. 18e, George Russell. 19e, Kevin Magnussen, décevant. Et 20e et bon dernier, Robert Kubica. Et c'est la première fois depuis le Grand Prix de Chine 2016, si je ne me trompe pas, que les 20 voitures, ben en fait, toutes les voitures qui ont pris part au départ n'ont pas abandonné. Passons tout de suite aux évaluations de Grand Prix. On va commencer évidemment avec la mienne. La performance du jour revient à tout seigneur, tout honneur à Max Verstappen, qui, partie deuxième après la pénalité à Lewis Hamilton qui avait bloqué Kimi Raikkonen lors des qualifications à Calais, ben, légèrement Calais, s'est retrouvé septième après le premier tour et a effectué une belle remontée pour aller gagner ce Grand Prix avec un dépassement un peu controversé sur Charles Leclerc à deux tours de la fin. Sinon, mention très honorable à McLaren, Norris sixième qui s'est légèrement retrouvé troisième dès le premier tour, en fait après le nouveau premier virage appelé le Niki Lauda Curve à l'honneur de l'ancien, ben en fait de l'ancien pilote de Formule 1 et grande légende de la course automobile qui nous a quittés le mois dernier. Très bon départ, mais très belle course aussi de la part du pilote britannique de 19 ans qui a été au front de toutes les bagarres, mais aussi Carlos Sainz qui est parti 19e. Incroyable! Et pourtant, lui, il avait un tout nouveau groupe propulseur qui avait été changé, évidemment, avant la fin de semaine du Grand Prix d'Autriche, de 19e à 8e. Encore une fois, Carlos Sainz qui se démarque. Mais sinon, Antonio Giovinazzi, premier point en Formule 1, qui s'est enfin démarqué de la bonne manière. Très belle séance de qualification, qui atteint encore une fois la Q3 pour un deuxième Grand Prix consécutif et qui reste solide, surtout comparé à son coéquipier Kimi Raikkonen. Sinon, ma contre-performance du jour va à Lewis Hamilton, vu que lui, il a eu des problèmes durant la course, il a été obligé de changer d'aileron avant, puisqu'il a mordu un vibreur dans le virage 10, ce qui a ruiné toutes ses chances de podium. Et malheureusement, encore une fois, je dois donner à Pierre Gasly, qui s'est retrouvé à un tour du meneur, du vainqueur, qui est son coéquipier Max Verstappen. Il est déjà sous pression. Il était déjà, mais il est encore plus maintenant avec la victoire de son coéquipier. Sinon, mon moment cocasse du jour, ben, j'en ai plusieurs. Le premier revient à Lando Norris et sa radio qui dit « You mean like forever ?» quand son ingénieur de piste lui dit de rester devant Ricardo, de le garder hors d'état de nuire, de ne pas qu'il soit à une seconde de lui pour utiliser le DRS. Et Norris qui dit « You mean like forever ?» c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Sacré Lando. Sinon, il y a Robert Kubica qui a fini à 3 tours du meneur, du vainqueur, qui obtient le titre de pilote du jour. J'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie de comprendre pourquoi ça existe encore, ce truc-là, parce que c'est clairement un concours de popularité. J'ai jamais vu quelqu'un qui est fini à 3 tours du meneur, surtout qui est fini à un tour de retard de son propre coéquipier, recevoir le titre. On a cru que c'était une blague, mais finalement, quand je suis allé sur le site de vote, c'était bel et bien Kubica qui avait remporté le titre. Ça prouve que ce système mérite amplement de partir. Et sinon, il y a eu aussi un moment cocasse, le faux document de la FIA, en fait, parce que lorsque les commissaires ont dû analyser et demander à Charles Leclerc et à Max Verstappen de s'amener pour expliquer le dépassement où les deux pilotes qui étaient premier et deuxième se sont touchés au virage 3 à deux tours de la fin, il y a quelqu'un qui a utilisé un beau Photoshop pour falsifier un document et dire que Max Verstappen avait reçu une pénalité de 5 secondes. Puis les journalistes ont sauté sur l'occasion pour publier la nouvelle sur les réseaux sociaux. Mais finalement, ils ont dit, ah ben, finalement, c'était faux, mais c'était du très beau Photoshop de la part de la personne qui a fait ça. Sinon, il n'y a pas seulement que moi, il y a aussi notre nouvelle recrue dans le bulletin F1, Marc-André Fortin, qui a rédigé le bulletin de notes du Grand Prix de... Pardon, pas le bulletin de notes, mais l'avant-course du Grand Prix d'Autriche, que vous pouvez aller voir sur bulletinf1.com, et lui souhaite évidemment la bienvenue. Il est aussi journaliste pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la LNH sur hockeyherald.com, hockeyherald.com, et il est à la couverture quotidienne du Phoenix de Sherbrooke. Donc, si vous voulez, ben, en fait, si vous êtes fan de hockey et même de la LHJMQ, ben, vous pouvez aller lire ses textes sur le Phoenix de Sherbrooke. Mais lui, sa performance du jour, pas au hockey évidemment, en Formule 1, il ne peut passer à côté de la performance de Max Verstappen qui, comme l'a dit, a raté complètement son départ. Il profite du mauvais arrêt au puits de Sébastien Vettel, du changement d'aileron de Lewis Hamilton et de la stratégie gagnante de Red Bull pour devenir le véritable pilote du jour. Mais aussi, mention honorable à Carlos Sainz qui termine 8e après s'être qualifié 19e, mais il est parti 19e à cause de son changement de groupe propulseur complet. Contre-performance, Lewis Hamilton qui a abîmé son aileron avant en montant de nombreuses fois sur les bordures. Et Pierre Gasly qui a eu de la misère à passer les pilotes devant. Parce que si Lando Norris, ça lui a pris 2 ou 3 tours pour dépasser Kimi Räikkönen, Gasly, ça lui a pris une 20aine de tours, plus un arrêt au puits pour être devant le Finlandais de l'Alfa Romeo. Et le moment cocasse du jour, eh bien, appartient à Charles Leclerc, qui a voulu partir du podium dû à son mécontentement parce qu'il n'était pas très content du dépassement un peu corsé de Verstappen, où les deux se sont tapés. Leclerc était frustré parce qu'il allait finalement gagner sa première victoire en Formule 1, mais malheureusement, la stratégie de Red Bull a fait en sorte que Verstappen est remonté, mais le dépassement pour lui était un peu trop agressif. Et il s'est fait dire de retourner, donc c'était un peu cocasse. Je comprends Leclerc d'être frustré, mais évidemment, ce sont les aléas de la course. Attendez, je pense que j'ai un audio de Brian que je vais vous faire écouter dès maintenant. Parce que oui, il n'était pas là, mais je l'ai croisé avant de partir vu qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble au même endroit. Alors, il nous a préparé une petite rubrique juste pour vous. Au moins, il ne vous a pas oublié. Je vous fais écouter ça. Alors, je suis en compagnie de Brian Wimett, qui exceptionnellement ne sera pas là aujourd'hui parce qu'il a eu un empêchement de dernière minute.
Mais je serai là quand même aujourd'hui. Surprise, Abdou!
Ah! Brian, qu'est-ce que tu fais là?
Ben, je t'ai kidnappé.
Ah, ben oui, c'est vrai. Hein? C'est pour ça que je suis dans ta voiture, ironiquement.
Ouais. Juste pour une rubrique spéciale aujourd'hui, je vais juste être là pour les moments forts, les contre-performances et le moment cocasse de la course pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, je serai là pour...
Donc, effectivement, il sera là pour le prochain Grand Prix. Alors, sans plus tarder, Brian, j'aurai besoin de tes évaluations. Alors, contre-performance du jour.
Performance du jour, là, tu viens de prendre un sentiment encore. La Red Bull de Max Verstappen. Mais il faut que je le dise aussi, Lando Norris aujourd'hui qui a été brillant à la course. La voiture était en pleine forme. Le pilote aussi était en pleine forme. Fait que je tends plus vers la McLaren aujourd'hui de Norris, malgré que Verstappen a gagné cette course-là. Sinon, j'étais un petit peu déçu. Pour la contre-performance, un petit peu déçu de Lewis Hamilton aujourd'hui. Lui qui a terminé 4e à la course. On dirait que 5e en plus.
Parce qu'il s'est fait dépasser par Vettel dans le
dernier tour. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ce qui est décevant, c'est que je vois que le champion du monde, des fois, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais départ aussi. On se rappelle qu'il y avait une pénalité 3 places pour le blocage de Kimi Räikkönen en qualification. Oui. Puis, c'est ça, on dirait qu'il n'était pas tout là aujourd'hui, ce qui est très, très, très dommage. Même aussi pour Sébastien Vettel, qui a été très décevant aussi, au contraire de son coéquipier Charles Leclerc, qui a eu une magnifique course, lui, à son tour. Moment cocasse. Vraiment, le dépassement, Charles Leclerc et Max Verstappen, comme tu m'as dit, un petit peu plus tôt dans la journée, ça a été vraiment 50-50. Ouais. On voit que Verstappen est vraiment sur l'offensive, vraiment prêt à tout pour dépasser son rival. Puis que malgré tout ça, on voit quand même que Charles Leclerc est très hésitant. Peut-être qu'il l'a pas vu arriver, il n'a pas prévu son arrivée aussi tôt. Mm-hmm. Il s'est quand même pris large. Je sais pas si t'as remarqué, au virage, il s'est repris très, très, très large. Tu sais,
Ouais.
il a failli avoir un petit dépassement au tour 68, mais c'était très, très, très serré, mais on voit que l'offensive de Marc Verstappen au tour 69 était beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent, puis que je pense que Charles Leclerc a carrément été pris par surprise par l'arrivée de Marc Verstappen. Je sais pas comment tu trouves ce dépassement-là.
Ah ben maintenant que tu en parles, moi je pense que au contraire, j'ai l'impression que Leclerc a laissé assez d'espace à Verstappen comme n'importe quelle bataille en fait, tu laisses au moins une distance correcte pour effectuer le dépassement. Leclerc l'a fait, mais Verstappen a tenté de le neutraliser, disons-le. Leclerc s'est peut-être abattu un peu trop vite sur Verstappen. C'est quelque chose, c'est ça que je te disais via message texte. C'est du 50-50 parce que oui, Verstappen est peut-être allé un peu large pour fermer la porte à Leclerc, mais Leclerc, disons, lui a laissé un peu trop d'espace et quand il a tenté de revenir, ben là, il était trop tard. Verstappen ne pouvait pas le laisser passer comme ça. Peut-être que Leclerc aurait pu se rétracter puis tenter une autre attaque.
Au prochain tour,
Au prochain tour.
malgré qu'il en restait deux aussi,
Ouais.
là.
Donc là-dessus, Leclerc a été, je dirais, quand même intelligent malgré tout. Il a fait ce qu'il a pu. Donc,
Il était sage, il n'a pas été téméraire sur sa défensive.
c'est ça.
Il n'a pas voulu être trop, trop, trop agressif. Surtout que il a quand même, on a vu, il y a eu un accrochage.
Oui.
Imaginez si la Ferrari aurait été un petit peu plus agressive, un petit peu plus
Ouais.
téméraire, il aurait pu avoir des dommages. On se rappelle, à même titre, il y a 2 ans, avec Nico Rosberg puis
Oui.
Hamilton, quand il y avait eu au même virage en plus, quand il y a eu le dépassement, Nico Rosberg s'est pris un petit peu trop large, il est revenu sur Hamilton
Oui.
et ça a été à son désavantage parce qu'il s'est ramassé avec un front wing brisé,
Oui. Et une
puis
pénalité de 10
il y
secondes
a
en
une
plus de ça parce que...
pénalité, fait qu'il s'est ramassé vraiment loin dans le classement,
Oui.
ce qui n'a pas été le cas pour Charles Leclerc, ce qui est très rassurant.
Ce qui est très rassurant, puis peut-être pour ceux qui ont regardé les courses de soutien, Formule 2, Formule 3, il y a eu des incidents à ce même virage 3 depuis le début de la fin de semaine. Donc, ce qu'on a vu avec Leclerc-Verstappen, ben, c'était propre. C'était propre
Très, très
comparé
propre.
à ce qu'on a vu. Donc, bonne décision de la part des commissaires de la FIA de ne pas sévir sur le cas Verstappen-Leclerc. Même s'il y avait une pénalité, j'aurais compris parce que peut-être que on nous aurait expliqué que Verstappen était dans le tort pour une raison X ou Y. Et là, au moins, ça crée un précédent pour ceux qui veulent tenter, en fait, un dépassement de cette manière où ça se touche. Donc, vraiment une bonne décision. Bon, ça a été un peu long. Ça a pris plus longtemps que
Quasiment 2 heures, hein?
Ouais, quasiment 2 heures parce que je pense que quand j'étais là envoyé, il était aux alentours de 14 heures heure du Québec. Donc, puis Verstappen et Leclerc ont été appelés en fait vers midi. Donc,
Mais c'est toute quelle course pour de vrai. C'est vraiment une course qu'on voit que là, les dés sont brassés, les cartes sont plus jouées de la même façon.
ouais.
On voit que là, il y a des écuries qui ressortent du lot, qui sont plus
Ouais.
performantes. Là, on voit Haas, magnifique qualification.
Oui.
Un petit peu de déception au niveau de la course, mais c'était quand même très, 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 très
Oui.
bon. On voit les McLaren aussi performer. Sainz qui est parti P18, P19?
19e, oui.
19e, puis qui s'est ramassé à la 8e place, quand même, qui est terminé 8e. Chapeau à lui. Faut aussi parler du départ du stall de Verstappen en
Ouais.
début de course.
Oui, exactement.
Donc, si on se rappelle bien, Verstappen il est parti sur la première ligne, puis dû à un faux départ, en fait, pas un faux départ, un mauvais départ de la part de Verstappen, il s'est ramassé 9e.
Oui.
Quel rattrapage tout au long de la course. On s'attendait pas à ça. Surtout avec un moteur Honda puis un châssis Red Bull. Il faut mentionner aussi que c'est la première victoire du motoriste Honda F1 depuis 2006 avec Jenson Button en
Hongrie.
Hongrie, Hungaroring. Ouais.
Oh oui, une course magnifique encore là sous la pluie.
On voyait vraiment les mécanos de Honda, puis les ingénieurs d'Honda très contents de leur shot, parce qu'on se rappelle que les mécanos, il y en a non seulement chez Red Bull, mais aussi chez Toro Rosso.
Oui.
On voyait des deux côtés que c'était qui étaient très, très, très fiers de leur coup, puis très, très, très contents du résultat chez Red Bull pour Max Verstappen et même aussi pour Gasly.
Oui, exactement. Puis en plus, avec toutes ces années, ben, les 3 années entre 2015 et 2017, en train d'être enguirlandé par McLaren parce qu'ils n'avaient pas les performances espérées. Ben là, ça fait du bien de voir les efforts, puis l'acharnement aussi. Très typique dans la culture japonaise, ils sont des gens passionnés,
Travail ardu,
du
travail ardu.
travail ardu, dévoués, et finalement, avec, même si j'ai, disons, été un peu sévère avec Red Bull concernant Gasly, le fait qu'il ne soit pas patient, là, ils l'ont été avec Honda, puis ça rapporte énormément. Puis,
Les résultats s'en viennent, les résultats s'en viennent.
et Honda a gagné un Grand Prix avant Ferrari cette année.
Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, on voit que, comme je disais, les dés sont brassés, les
C'est
jeux sont
ça.
changés, puis ça prend. On est encore en début de saison. On est encore en début de saison, fait que ça promet encore pour les prochains Grands Prix, les prochains mois. Là, on s'en vient bientôt, on approche vraiment des vacances bientôt de la F1.
Ouais, il
Fait
reste encore 3 grands prix avant les vacances, donc on veut finir
On veut
sur un
finir
bon,
ça sur une bonne note.
sur une bonne note exactement.
Puis là, après ça, il y a les prochaines évolutions moteurs après les vacances, puis la game va être encore meilleure aussi.
Exactement. Eh ben, Brian, merci beaucoup pour
Ça fait
ce
plaisir.
moment. On va se retrouver pour le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone.
Yes. À la maison de Lewis Hamilton.
Oui, et à la maison aussi de plusieurs écuries aussi, vu que
Exact.
le Grand, ben, l'anglais Silverstone n'est pas très loin des usines de certaines écuries, dont celle de Mercedes.
Et McLaren aussi.
Et McLaren
Et
aussi.
Williams.
Et Williams aussi, ouais.
Williams aussi.
Et Williams, bof. Bref.
Bonne
Donc,
soirée.
merci
Profite de
Brian.
ta soirée.
Merci beaucoup. Puis
On se revoit.
on se revoit. Exactement. Merci Brian. Alors, c'était Brian qui nous a donné son évaluation, puis aussi un petit compte-rendu de son Grand Prix. Lui qui n'avait pas regardé la course en direct comme plusieurs d'entre nous, vu que lui, il travaillait. Mais il s'est contenté des faits saillants. Et comme il est un amateur de Red Bull, ben, il était probablement au septième ciel. Et désolé un peu pour la qualité audio, ben, j'ai enregistré avec mon téléphone, j'ai testé l'option enregistrement pour la première fois. Ça sonnait pas trop mal non plus. Maintenant, passons aux évaluations de nos internautes. On a sur Twitter Tokyo qui nous dit performance du jour Verstappen. Contre-performance, l'arrêt au puits de Ferrari où Sébastien Vettel est rentré en même temps que Valtteri Bottas, mais en bloquant un peu Bottas, ben Vettel a été pris par surprise parce que Ferrari n'était jamais prêt en fait. Ils l'ont fait rentrer un peu à l'improviste avec des problèmes radio, donc ça n'a pas été joyeux pour Vettel qui a vu ses chances de podium ruinées juste pour un seul arrêt. Et le moment cocasse, c'est Hamilton qui est dépassé par Vettel pour la première fois de la saison, mais c'est pour une position minime, on va dire, quatrième, pour la quatrième place à 2 tours de la fin. On a Jean-Sébastien, toujours sur Twitter, qui, disons, lance une pointe au Grand Prix précédent, la contre-performance du jour, encore le Grand Prix de France pour son ennui mortel. Je suis vraiment d'accord avec lui. On a le toujours très fiable Francis Paquette qui nous dit performance du jour va à Max Verstappen et à Lando Norris. Contre-performance du jour, les As. Oui, les As dont entre autres Kevin Magnussen qui finit entre les deux Williams, ce qui est une surprise. Et le moment cocasse, ben, c'est Lando Norris avec son ingénieur pour le You mean like forever? Ever? Like forever? Sacré Lando. Sur Facebook, on a Nick Provo qui nous dit, bien sûr, performance du jour, Max Verstappen. Contre-performance du jour, on n'en a pas vu de la course, mais il lui semble que Raikkonen aurait pu faire mieux. Peut-être. Je suis un peu en désaccord, mais je comprends son point parce que Raikkonen avait un très bon début de course, mais ensuite, ça s'est un peu effacé par la suite. Et le moment cocasse, c'est le visage de Toto Wolff quand Valtteri Bottas se fait dépasser facilement par Verstappen pour la deuxième place. Un visage un peu songeur, un peu cringe de la part de Verstappen, de Toto Wolff, pardon. Donc voilà, c'était les évaluations de Grand Prix par l'équipe du Bulletin F1 et par vous, les internautes. Si vous voulez le faire pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, vous pourrez le faire dès que la course sera terminée. On enregistre normalement le dimanche soir au Québec et c'est publié le lundi. Donc, vous avez le jour de la course pour nous envoyer nos évaluations sur Twitter, @lebulletinF1, ou sur facebook.com/bulletinF1. Allons maintenant passer à l'ordre des écuries. On va faire un tour des 10 écuries et l'ordre a changé. Normalement, Brian aurait été très content de pouvoir parler pour la première fois en premier de Red Bull. Mais il travaille, il a un empêchement de dernière minute, donc c'est moi qui dois assurer le relais. Meilleure chance la prochaine fois, Brian. Tu ne sais pas ce que tu manques. Donc, on va commencer évidemment avec le vainqueur de la course, Max Verstappen, qui est allé chercher la victoire au bout du Grand Prix d'Autriche en dépassant Charles Leclerc à 2 tours de l'arrivée. Le Néerlandais était en première ligne, mais il a raté son départ, ce qui l'a repoussé au 7e rang avant d'effectuer une belle remontée. Et je dois dire, c'était une belle fin de semaine pour les Néerlandais, non seulement avec la victoire de Verstappen, mais aussi avec la qualification des Pays-Bas en demi-finale de la Coupe du monde de soccer féminin de la FIFA en France. Et entre autres avec, on va en parler un peu plus tard, Nyck de Vries qui accentue son avance au classement des pilotes de Formule 2. Et la course de MotoGP de Assen qui apparemment était du bonbon. Je ne l'ai pas encore vu, je vais voir l'effet saillant un peu plus tard. Mais pour revenir à Verstappen, il dit qu'il a eu un mauvais plat sur un de ses pneus dans le premier relais, mais après l'arrêt au stand, il volait comme une fusée. Et son dépassement dans l'avant-dernier tour, il a signé ce qui est la première victoire de Honda depuis 2006, lorsque Jenson Button a gagné le Grand Prix de Hongrie, ce qui était aussi sa première victoire en Formule 1. La première d'une dizaine à peu près, en 2006. Et il avait un très bon rythme dans les lignes droites pour dépasser. Et ça fait du bien autant pour Red Bull que pour Honda. Parce que depuis le début de l'année, Red Bull nous offre de belles performances. Bon, on va dire, Max Verstappen nous offre de belles performances course après course. Même quand ça a été difficile, par exemple à Montréal, il y a eu damage limitation, excusez-moi pour l'anglicisme. Et même Christian Horner, le patron de Red Bull, était vraiment sans voix après avoir vu Verstappen voler comme une fusée. Horner a avoué, que la course de son pilote numéro 1 était pas mal ruinée. Il avait le système anti-calage et il aurait pu au moins atteindre la 3e place, mais la manière dont il a remonté le peloton tout en gérant les pneus, c'était vraiment incroyable. Mais le dépassement sur Leclerc au 69e tour, d'après moi, c'était ce qu'il y a de mieux dans la course. Je sais que pour plusieurs, il y en a qui pensaient que ça aurait dû être une pénalité à Leclerc, pas à Leclerc, mais à Verstappen. Mais je pense que quand on regarde les images, Verstappen, oui, il est allé un peu large pour fermer la porte, mais c'est ça qu'il fallait qu'il fasse parce que Leclerc avait, même s'il n'allait pas avoir le DRS sur la ligne droite qui suivait après le virage 3, mais il fallait qu'il lui ferme la porte. C'était un peu dur, c'est du Verstappen tout craché, mais il fallait au moins qu'on ait ce genre de bataille. Peut-être que c'est un incident de course parce que je pense que Leclerc a laissé un peu trop d'espace à Verstappen, ce qu'il fallait qu'il fasse de toute façon. Mais Leclerc, d'après moi, est juste revenu un peu trop large, un peu trop tôt sur Verstappen. C'est un incident de course, c'est quelque chose qui arrive. Ça va créer désormais un précédent. Donc, s'il arrive la même chose, ben là, on va dire, ben, comme au soccer, play on. Mais du côté de Pierre Gasly, ouf, c'est très difficile. Il finit à un tour de son coéquipier et de la victoire même. Mais évidemment, le Français était dégoûté. Il était déjà sous pression avant la course, après que Helmut Marko, le directeur de l'Académie des jeunes pilotes de Red Bull, a dit que ses résultats étaient inacceptables. Il a essayé de pousser, il a trop attaqué avec les pneus durs, mais il les a même détruits au début du relais. Donc c'était beaucoup trop compliqué, ce qui explique aussi pourquoi ça a pris du temps avant qu'il ne dépasse Kimi Räikkönen. Bon, il essaye d'être satisfait de la victoire de Red Bull et de son coéquipier Verstappen, qui est aussi un peu son ami, mais il est aussi un bon ami de Charles Leclerc. Parce que pour lui, bon, pour Charles, c'est son pote, c'est le pote à Charles, donc ça le rend un peu triste. Et ils ont une belle bataille. Il dit que la voiture a bien fonctionné avec Max, et on sait maintenant quelle direction il va prendre au cours des prochains Grands Prix. Mais avant de... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, qui critiquent Gasly. Bon, avec raison, parce que les performances sont en deçà des attentes. Mais je dois dire, si Verstappen et Red Bull récoltent les lauriers qu'ils ont aujourd'hui, c'est en partie grâce à Gasly. Parce que depuis son passage en Super Formule 1 avec Team Mugen, qui est l'équivalent de l'IndyCar au Japon, il a aidé Honda dans le développement moteur. Il l'a aidé aussi avec Toro Rosso quand il est arrivé pour la saison complète en 2018. Les résultats étaient là. Oui, ça a été un peu plus difficile, mais comme je l'ai dit avec Brian, il y a eu de la patience. Peut-être ce qui manquait avec McLaren. Il fallait que cette écurie, ben en fait, il fallait que Honda puisse mieux développer les moteurs avec la liberté qu'ils ont. Parce qu'on sait, les Japonais ont une mentalité d'acharnement positive. Ils sont prêts à tout pour gagner. Donc, il a compris, Gasly a compris comment les Japonais travaillaient. Il a passé une année complète, ben, presque une année complète au Japon. Donc, il connaît la culture, contrairement à McLaren et à Fernando Alonso. Oui, les résultats ne sont pas là, mais il mérite une partie de la gloire. Passons maintenant chez Ferrari. On va commencer par Charles Leclerc, puisque ça a été celui qui a fini le plus haut parmi les deux pilotes de la Scuderia. Il est parti en pole, il a été très rapide tout le long de la fin de semaine. Il avait la victoire, sa première victoire en main, mais il a été dépassé par Verstappen à 2 tours de la fin de la course. Mais si vous l'avez vu, il avait un langage corporel assez négatif parce que il avait sa première victoire entre ses mains, mais il est plutôt dégoûté par le dépassement, en fait. Il est énervé contre Verstappen. C'est un incident qui a fait débat 3 ans ou 4 ans, même on en parle encore aujourd'hui sur les médias sociaux. Et Leclerc est vraiment énervé contre Verstappen parce que, bon, il a probablement revu les images. Il y a eu juste avant le dépassement qui allait coûter la victoire à Leclerc, il dit qu'il était sur l'extérieur. Comme le tour d'avant, c'était bien car il lui avait laissé de l'espace à la sortie du virage. Mais il ne l'a pas fait au tour suivant, donc c'est là où ils se sont touchés. Il a dû aller à l'extérieur de la piste après avoir été touché. C'était pas possible de remonter sur lui, évidemment. C'est juste quelque chose de dommage. Mais outre ça, c'est une course absolument solide, sans reproche. Dans le bulletin de notes, on peut dire qu'il va avoir une note de 10 parce que on n'a rien à redire. Il a été parfait du début jusqu'à la fin. Il a utilisé la même stratégie que Valtteri Bottas, mais malheureusement, ça lui a fait plus de mal que de bien. C'est quand la prochaine victoire, le prochain moment où Leclerc pourra se battre pour la victoire? Est-ce que ce sera en Angleterre? Ou Ferrari a quand même offert l'année dernière un très beau duel à Mercedes? D'ailleurs, Vettel a gagné à Silverstone. Est-ce que ce sera à Hockenheim sur un circuit où il y a un peu plus de vitesse que de virages lents ou serrés? On ne sait pas. Mais si Verstappen avait été pénalisé pour cet accident, Leclerc aurait été vainqueur parce que ça aurait été probablement une pénalité de 5 secondes ou quelque chose du genre. Mais une victoire par décision de commissaire n'aurait même pas la même saveur qu'un premier triomphe gagné avec un drapeau à damier. Donc, on va voir pour les prochaines courses, mais en tout cas, Leclerc a été vraiment impressionnant. Puis il a même eu un petit moment à Raikkonen où il a dit laissez-moi tranquille. Donc ça, je pense que c'est compréhensible. Ce qui est un peu moins compréhensible, c'est son coéquipier Sébastien Vettel qui lui a failli transformer sa 9e place en Autriche parce qu'il a eu un problème de pression d'air en Q3, donc il n'a pas pris part, il n'a pas fait un tour en fait dans cette dernière période de qualification, mais il a fait deux arrêts. Deux arrêts. Le premier a été très bruyant parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, son écurie n'était pas prêt pour faire le premier arrêt. Donc, ça a été un changement de pneu assez lent. Et le deuxième, ben, c'était plus stratégique, disons, pour probablement aller chercher le meilleur tour, mais pour mettre la main sur la 4e place qui allait probablement être occupée par Lewis Hamilton. Donc, et Vettel l'avoue, c'est Leclerc qui méritait de gagner. C'est évidemment lui qui était le plus rapide. Vettel n'était pas tellement dans le coup. Il a même fait un dérapage tête à queue lors des essais libres numéro 2 le vendredi après-midi. Ça lui a fait mal. C'est une deuxième qualification consécutive où il se retrouve hors du top 5. Donc, c'est très dommage pour Sébastien Vettel parce que je pense que là, on peut le dire, le championnat commence à lui glisser entre les mains. Je pense qu'Hamilton, même s'il a fini devant Hamilton, ce dernier, ben, s'en va vers la gloire, vers le titre numéro 6. Évidemment, avant que la décision ne soit prise concernant l'incident Verstappen-Leclerc, il s'est rangé du côté de Verstappen en disant, ben là, écoutez, on est des adultes, on sait se débrouiller, c'est pas une cour de récréation, un Grand Prix, là. Donc, évidemment, ça, c'est en référence avec ce qui s'est passé à Montréal. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est deux histoires différentes. Un a fait une erreur de pilotage, l'autre a effectué un dépassement corsé. Mettons fin à ce débat tout de suite. Et passons maintenant à l'écurie qui mène le championnat et qui tombe troisième dans l'ordre de parole du bulletin F1, Mercedes. Et on ne commencera pas avec le champion en titre, mais bien Valtteri Bottas. Parce que Mercedes a souffert face à Ferrari pour la pole en Autriche. Mais soyons honnêtes, personne ne s'attendait à ce que Ferrari et Red Bull soient rapides que les flèches d'argent. Donc, ni Hamilton et encore moins Valtteri Bottas, qui finit sur le podium en troisième place, n'ont eu leur mot à dire pour la victoire. Ils n'ont jamais été dans le coup. Donc, troisième pour Bottas, c'était le mieux qu'il pouvait. C'était un bon départ quand même. Bon, il est parti troisième avec la pénalité de son coéquipier qui a eu 3 places mais qui s'est de pénalité, mais qui s'est retrouvé quatrième. Lui et Bottas a eu des problèmes de surchauffe avec le moteur. Il fallait qu'il gère la température de sa voiture. Mais ce sont des bons points. Puis il finit devant Hamilton. C'est tout. C'est quelques points. Mais c'est un positif qu'on pourrait lui trouver. Donc, la surchauffe lui a forcé à ralentir et baisser le rythme de course. C'est pour ça aussi qu'il a perdu la 2e place aux dépens de Verstappen et de surcroît ben de Leclerc évidemment, mais Leclerc était devant Bottas depuis le début de la course. Quant à son coéquipier Lewis Hamilton, ben lui il a souffert du même mal que Bottas, donc une surchauffe du moteur et ça n'a pas été une fin de semaine du tout facile pour les Britanniques. Comme je l'ai expliqué, samedi, bloque involontairement Kimi Raikkonen, se retrouve avec une pénalité de 3 places. Mais c'est un week-end complètement raté. Lui aussi, il a eu de la surchauffe, contrairement au Ferrari Red Bull. Et ça a causé un problème parce que ils ont moins de puissance. Et moins de puissance avec l'altitude parce que le Red Bull Ring se trouve dans les montagnes de la Styrie. Donc, et en plus, il faisait très chaud. Il faisait 35 degrés l'air ambiante. La température des pistes aussi aux alentours de 52 degrés Celsius. Parce qu'en Europe, c'est une période de canicule assez intense. Donc, avec moins d'air, il y a moins de refroidissement. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, évidemment. C'est dommage. Et en plus de cela, avec la victoire de Verstappen, Mercedes rate l'occasion d'égaler la marque de 11 victoires consécutives établie par McLaren en 1988, lors de ce qui était la saison de domination des McLaren Honda, avec Ayrton Senna et Alain Prost au volant, un titre, une saison qui a été remportée par Ayrton Senna. Parlant de McLaren, on va parler de l'écurie qui possède le moteur Renault et qui confirme son statut de meilleure équipe du peloton, donc, ou disons-le, meilleure équipe de la Formule 1.5, comme mentionné par plusieurs personnes sur Reddit. Lando Norris, encore une fois une belle performance, il a terminé 6e, meilleur des autres, et devant Pierre Gasly, après être parti 5e sur la grille. Mais ce qui est son point fort ou son forever, c'était sa lutte avec Lewis Hamilton pour la 3e place au départ. Kimi Raikkonen, le vétéran qui pourrait même être son fils et qui pourrait même être le fils de Raikkonen, et Sebastian Vettel. Bon, Norris dit que manquait de ligne droite parce qu'il a le moteur Renault qui n'est pas très performant comparé à la Mercedes d'Hamilton et encore moins la Ferrari nichée dans la Alfa Romeo de Raikkonen. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais heureusement, il a pu repasser Raikkonen et ça a été pour la suite une très bonne gestion de course. Il y avait Daniel Ricciardo qui était derrière lui, mais ce dernier a été dépassé par Pierre Gasly. Donc, Norris a fait du très bon travail. Mais celui qui en a fait encore plus et qui est malheureusement passé sous le radar, c'est Carlos Sainz. Il a arraché les 4 points de la 8e place et pourtant, il est parti 19e. Parce que, comme on l'a mentionné, Sainz avait eu un problème de... ils ont changé... McLaren a changé complètement le groupe propulseur, donc toutes les composantes, et ils avaient excédé la limite requise pour certaines d'entre elles. Donc, il a eu plusieurs places de pénalité. Donc, avec Alex Albon, lui, il est parti en fond de grille, mais lui décrit ça comme une journée de rêve. Je pense que c'était pas simple pour lui de remonter. Je pense qu'il y a eu même un léger contact avec Gasly, apparemment, ce qui a endommagé son aileron avant, mais ça ne l'a pas empêché de revenir et de dépasser les Alfa Romeo, de se rapprocher même du français de Red Bull. Donc, l'évolution en Espagne, l'évolution de la voiture en Espagne commence à rapporter ses fruits. Comment ça rapporter? Donc, McLaren, avec un moteur Renault fini devant l'équipe qui leur fournit ses groupes propulseurs, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour McLaren. Et à l'approche de leur Grand Prix national, comme pour plusieurs à Silverstone, c'est quelque chose de très réjouissant. S'il y a quelqu'un qui peut aussi se réjouir, c'est Alfa Romeo. Surtout Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie suisse, même si Alfa Romeo c'est italien, tout ça, ça appartient à Ferrari. Parce que pour la première fois de la saison, et la première fois Depuis le retour d'Alfa Romeo, les deux voitures finissent dans le point et passent sixième au classement des constructeurs. Donc, c'était du très beau travail de la part autant de Kimi Räikkönen, mais aussi d'Antonio Giovinazzi. Räikkönen 9e, qui a piloté de manière intelligente, qui s'est retrouvé 5e, 4e même, 4e dans les premiers tours, mais a dû céder sa place à Lando Norris, mais aussi à Carlos Sainz et à Pierre Gasly. C'était un très très bon résultat, très bon départ de la part du Finlandais. Il manquait un petit peu de vitesse, mais ça, c'est pas grave. Donc, il fallait qu'il sacrifie la vitesse pour une meilleure gestion des pneus, parce que avec la température, comme je l'ai dit, 52 degrés sur la piste, c'était assez chaud. Donc, c'est facile d'aller vite, mais c'est aussi facile de garder les pneus en vie avec ce genre de température. Donc, vraiment du très bon travail du Finlandais. Mais Antonio Giovinazzi qui marque ses premiers points, mais en fait son premier point en Formule 1 après plusieurs courses difficiles où soit il est passé proche ou soit il est passé à côté. Donc, très beau travail de la part de l'Italien qui, pour un deuxième Grand Prix consécutif, s'est rendu en Q3. Et là, je pense qu'il est parti quoi? Je pense 6e ou 7e, je me souviens plus, mais a réalisé une très bonne séance de qualification. Si ça peut, comme je l'ai dit la semaine dernière dans la balade de diffusion, s'il est capable de continuer sur sa lancée en France malgré la malchance d'avoir été ruiné par la stratégie de son écurie, au moins il va pouvoir faire mieux et il l'a prouvé. Il a été excellent. Il est resté dans le top 10, il est resté à la portée, même de Raikkonen en fin de course. Et là, ça commence à porter fruit. Et devinez quoi? Ben, vous savez que peut-être qu'ils ont jamais ceux qui ont. Peut-être pas une image de Giovinazzi. Il a des cheveux longs. Et bien, après la course, et bien, Frédéric Vasseur est allé couper une partie des cheveux en gage de parier en fait que si Giovinazzi allait marquer ses premiers points, que Vasseur ou allait couper une partie de ses cheveux longs, ce qui a été fait. Vous irez voir la vidéo sur les médias sociaux de l'écurie Alfa Romeo. C'est vraiment drôle, mais c'est vraiment réjouissant de voir l'Italien marquer enfin des points en Formule 1. Si Giovinazzi a marqué son premier point, l'écurie qui a le nom point dans son écurie n'en a pas cette fin de semaine. Jeu de moi, c'est facile. Je sais, je le sais. Racing Point était à la porte des points et Otmar Szafnauer, le directeur de l'équipe, en regrette l'absence. Mais il faut le reconnaître, le peloton de McLaren jusqu'à Haas limite Williams quand ils peuvent. Ça devient de plus en plus serré. Celui qui a terminé 11e, ben, c'est Sergio Pérez. Il a profité de la durée de ses pneus médiums pour tenter une belle remontée dans le classement et attaquer un peu plus tard, un peu comme ce que Lance Stroll a fait à Montréal et à Paul Ricard. Mais malheureusement, il a été bloqué par plusieurs voitures au départ et il n'a pas essayé de faire l'attaque voulue. Il a tout donné, ça il faut le dire, c'était une bonne performance de la part du Mexicain, à qui on dédie d'ailleurs cet épisode. Mais il a bloqué les roues en tentant un dépassement sur Giovinazzi et c'était tout ce qu'il pouvait faire. Rester hors des points, tenter de rester même devant les Renault, qui étaient principalement leur cible pendant le Grand Prix. C'est dommage parce que Racing Point, ben, on dit qu'il va avoir une nouvelle évolution pour ben, une nouvelle voiture pour le Grand Prix d'Allemagne. Je pense que autant Sergio Pérez que Lance Stroll ont hâte d'avoir cette nouvelle voiture. Parlant de Stroll, ben, lui, c'était pas non plus une course simple. Encore un bon départ, encore un bon premier relais. Il était même dans la boîte de vitesse Nico Hülkenberg et de Sergio Perez à un certain moment. Mais comme Mercedes, ils ont été obligés de gérer des problèmes de moteur pendant une dizaine de tours et il a été obligé de reculer un peu. Ça lui a coûté à peu près 5 secondes. Mais je pense qu'il dit aussi qu'il y a eu un problème de débit de carburant et il a perdu une place aux dépens de Daniel Ricciardo. Et parlant de Ricciardo, ben son écurie Renault a manqué de marquer des points en Autriche pour la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne avec Ricciardo 12e et Nico Hülkenberg 13e au Red Bull Ring. Donc, tous les espoirs de retourner dans les points se sont évaporés en fin de course. Ricciardo, le seul point positif, c'est d'avoir dépassé Nico Hülkenberg dans le dernier tour pour finir 12e. Il a perdu 2 rangs au départ, mais il était en train de se battre avec Sergio Perez. Mais c'était rien. Et même avec Lando Norris pendant un certain temps, mais ce n'était pas facile pour l'écurie française. Et Cyril Abiteboul, le directeur de Renault, qualifie ce Grand Prix de douche froide parce que de toute façon, l'écurie française n'était jamais dans le coup pour marquer des points. Même si Ricardo s'y est retrouvé pendant une bonne partie de l'épreuve, et pourtant on mettait beaucoup d'accent sur ces Grands Prix Paul Ricard et Autriche pour compléter, disons, la période estivale avant les vacances d'été. C'était pas le cas. Je vais parler un peu de Nico Hülkenberg qui, lui, à l'inverse de Ricardo, a connu un très bon départ et a gagné 3 places depuis la 15e place. Lui qui a eu une pénalité de gris pour un changement de boîte de vitesse, si je me trompe pas, mais il était proche, lui aussi, du top 10, pardon. Lui, il a eu quelques problèmes avec sa voiture. Mais il ne pouvait rien faire du tout. C'est dommage pour Renault parce que c'était quelque chose de prometteur. Au Grand Prix du Canada, les deux pilotes se sont retrouvés dans les points. En France aussi, malgré la pénalité de Ricardo quelques heures après la tombée du drapeau à damier, où il était passé de 7e à 11e avec la double pénalité. C'est vraiment dommage pour Renault parce que l'année dernière, à pareille date, il se battait pour la lutte, il se battait pour la 5e place, voire même la 4e avec Haas, ce qu'ils ont eu maintenant cette année. Ils en arrachent et se retrouvent maintenant derrière l'écurie qui a leur moteur, en fait. Meilleure chance la prochaine fois à Silverstone. Chez Toro Rosso, on ne les a pas beaucoup vus. Oui, ils ont eu des batailles avec Haas, mais c'était pas pour des points, c'était juste une bataille en fond de peloton. Vous aviez Alex Albon qui est parti des stands parce que lui, il avait pris le nouveau moteur évolué de Honda. Et Danny Kvyat, ça a été aussi difficile. Lui qui avait la chance de passer en Q2, mais a été gêné par la Williams de George Russell, ce dernier ayant eu une pénalité de 3 places sur la grille et un point de pénalité sur sa licence. Mais les deux Toro Rosso ont fini respectivement 15e pour Albon et 17e pour Kvyat. Albon a dit que son premier relais était très difficile, mais en deuxième moitié de course, c'était correct. Mais le temps perdu lors du premier relais leur a fait mal. Et pourtant, le vendredi, ils étaient bons dans les longs relais. Ça ne s'est pas concrétisé dimanche. Mais Kvyat, ça a été encore pire. Parce qu'il s'est même fait dépasser par Russell. Ce qui est une surprise. Et pourtant, Russell est parti de la ligne des puits. Donc, c'était pas une bonne fin de semaine pour le Russe. Qui, en fait, j'ai rarement vu Kvyat avec une bonne performance en Autriche. Je pense que c'est un des circuits où il a du mal à performer, où il est même malchanceux. C'est vraiment dommage pour le Russe parce qu'il faisait une... il connaissait un bon début de saison, mais je pense qu'il a souffert un peu des performances de sa Toro Rosso. Catastrophe en Autriche! Et je parle de Haas, qui est, rappelons-le, flanqué des couleurs de ma marque de boisson énergisante préférée. Et je le dis avec sarcasme, même si ça ne paraît pas. Je parle de Rich Energy. Haas, Rich Energy Haas F1 Team, a été pratiquement dernière. Et pire que ça, Red Bull a gagné. Alors, qui est hashtag better than Red Bull? Red Bull eux-mêmes. Si vous nous écoutez, Rich Energy, je vous aime aussi. En fait, pas vraiment. Chez Romain Grosjean, c'est une course catastrophique au Red Bull Ring. Sa monoplace n'a eu aucune adhérence pendant toute la fin de semaine. Il a perdu de nombreuses places en course. Et comme d'habitude, il n'a jamais pu exploiter les performances des pneus Pirelli. La VF19 de la Haas est très gourmande en matière de pneus. C'est très difficile pour eux de pouvoir bien gérer la température de ces gommes et ça leur a fait mal. Et il a plaisanté en disant qu'il y a eu une averse locale sur sa voiture. Il dit, il lâche l'embrayage, ça glisse, la voiture elle patine. Donc, dans le premier tour, il a perdu beaucoup de place à cause de ça. Si Grosjean avait l'humeur de plaisanter, son coéquipier Kevin Magnussen n'avait pas le mood pour le faire parce que samedi s'est qualifié cinquième. Mais sachant qu'il avait déjà une pénalité pour un changement de boîte de vitesse supplémentaire, il est parti dixième et il finit avant-dernier. Il finit avant-dernier, derrière une Williams qui est supposée être la pire écurie du plateau. Et pire que ça, il a reçu une pénalité de drive-through pour ne pas s'être placé correctement sur la grille de départ. Donc, la Haas n'avait aucun rythme. C'est triste à dire. Donc, tu passes de cinquième en qualification à dernier en te battant avec les Williams. C'est quelque chose de vraiment étrange, frustrant et vraiment dur à comprendre. Donc, la Haas, en fait, Kevin Magnussen, c'est vraiment dommage pour lui. Je me sens mal pour lui parce que il était très content à la radio après s'être qualifié cinquième, jubilait. Et là arrive la course de dimanche, ça va de mal en pis. Perd des positions départ, se fait dépasser par une Williams, reçoit une pénalité de drive-through et finit avant-dernier. Il y a un de ces jours-là où tu n'as pas envie d'être dans la peau de Kevin Magnussen actuellement. Et probablement que on a envie d'être dans la peau de George Russell dans les circonstances parce que le Grand Prix d'Autriche n'a pas été totalement négatif pour Williams. Russell est parti de la ligne d'appui parce qu'ils ont changé, il a été obligé de changer d'aileron sous la règle du parc fermé. Donc, il a été obligé de partir de la ligne d'appui. Et il a connu un très bon début de course. Étonnamment, il est parti de la ligne des stands et il a dépassé. Bon, Robert Kubica, qui était, je m'excuse à mes amis polonais, une proie vraiment facile, mais il a dépassé Daniil Kvyat. Et il s'est retrouvé dans la belle bataille entre les Toro Rosso et les Haas en début d'épreuve. Et il a même réussi à se défendre contre Kevin Magnussen en fin de course. Donc, il y a quelque chose de positif. Et surtout, au lendemain, je dis au lendemain, mais au lendemain du licenciement de Paddy Lowe comme directeur technique chez Williams. Donc, très, très bonne performance de la part du jeune Britannique et champion en titre de la Formule 2 en 2018. Attention, moi, je vais péter une crise, une coche, pardon. Qui a eu l'idée de mettre un pilote qui termine à 3 tours du meneur pilote du jour? Quelqu'un peut m'expliquer? Parce que je comprends pas comment Robert Kubica peut être nommé pilote du jour alors qu'il finit à 3 tours du meneur, voire même à 1 tour de retard de son propre coéquipier. C'est ça que je disais un peu en début d'émission, d'épisode, pardon. Enlever le Driver of the Day, c'est un concours de popularité. N'importe qui peut voter. Bref, il n'avait pas de rythme. Oui, il a gagné quelques départs en course. On va être honnête, il a connu un bon départ, mais il a eu du mal à manier sa voiture parce que la maniabilité n'était pas très bonne. Elle était mauvaise. Donc, il n'était qu'une chicane mobile, en fait, pour les autres au fil des tours. Donc, ça manque d'adhérence. Comme avec Mercedes et Racing Point, le moteur Mercedes surchauffe beaucoup. Donc, avec les pneus qui souffrent beaucoup, il glissait. Donc, c'était pas évident pour Kubica de garder le contrôle de sa voiture. Donc, le pilote du jour a eu de la difficulté à conduire. J'ai cru que c'était une blague, mais non. Je pense que je l'ai même publié sur le compte du bulletin F1 sur Twitter, là, une photo de l'écran de mon ordi avec une image de Kubica comme pilote du jour. J'ai dit, ben non, ça se peut pas. Bref. C'est ce qui complète le résumé des écuries selon l'ordre du classement des pilotes. On va parler du classement du championnat des pilotes. Malgré sa cinquième place, Lewis Hamilton garde 31 points d'avance sur Valtteri Bottas. C'est 197 pour Hamilton, 166 pour Bottas. Max Verstappen, avec sa victoire et le point bonus pour avoir réalisé le meilleur temps, à 126 points et passe troisième devant Sébastien Vettel qui en compte 123 et Charles Leclerc atteint le plateau des 100 points, il en compte 105. Au classement des constructeurs, ben Mercedes continue de mener avec 363 points, à moins d'une catastrophe exceptionnelle pendant les prochaines courses. Je vois mal Mercedes être rattrapé. Ferrari à 228 points et Red Bull en a 169. McLaren garde sa quatrième place avec 52 points. Renault cinquième avec 32. Alfa Romeo en a 22. Racing Point 19. Toro Rosso 17. Haas avec 16. Et Williams avec un beau 0 point. La prochaine épreuve aura lieu en Grande-Bretagne, à Silverstone, et pas pour la dernière fois, j'espère, parce que n'oubliez pas que le contrat du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone se termine après ce Grand Prix. It's coming home, lads! Parce que c'est le Grand Prix national pour certaines des écuries qui sont établies proche de Silverstone, dont Mercedes, qui, même si elle roule sous la licence allemande, a des usines à Brackley. Maintenant qu'on a parlé de Formule 1, on va passer au segment en route vers la F1, puisqu'on avait les championnats traditionnels de Formule 2 et de Formule 3 comme course de soutien à la F1, disputés aussi pendant cette même fin de semaine, toujours sur le même circuit au Red Bull Ring de Spielberg. On va évidemment commencer avec la Formule 2. Il y a eu deux courses pendant la fin de semaine. La première était supposée être remportée par Nick De Vries, mais c'est le Japonais Nobuharu Matsushita qui s'est imposé au Red Bull Ring. De Vries avait pourtant réalisé une belle performance au volant de son Hart, mais jusqu'aux deux derniers tours, il n'était pas menacé. Mais il s'est retrouvé en difficulté, a été dépassé par Matsushita, Luca Giotto et Sergio Sete Camara. Donc Matsushita, qui est un protégé de Honda, a fait son retour sur la plus haute marche du podium, lui qui n'avait pas gagné depuis 2017 en fait. Mais malgré tout ça, ça reste une belle opération pour De Vries, vu que ses rivaux ont eu beaucoup de difficultés. Nicolas Latifi, qui fêtait son anniversaire durant la fin de semaine, a été percuté par l'arrière par Sergio Sete Camara au virage numéro 3, le fameux virage numéro 3. Ce dernier, Sete Câmara, a reçu une pénalité de 5 secondes qui l'a fait rétrograder de la 3e place à la 5e. Mais Latifi n'a pu faire mieux que la 9e place, donc aller chercher 2 points. Et Jack Aitken, quant à lui, a connu une sortie de piste au premier virage, mais était de toute façon dans la 2e portion du peloton. Et il a terminé 10e, donc il est allé chercher un petit point. Présent en première ligne, il y avait Antoine Hubert, le Français qui avait remporté la course 2 à Paul Ricard la semaine dernière. Il a été dépassé par Matsushita, Guan Yuzhou et Luca Giotto dans les premiers tours de l'épreuve. Il a mené une course solide pour terminer 4e. Zhou termine 5e. Zhou, Deletraz et King vont compléter le top 8. Mais cette course a été marquée par le calage de Mick Schumacher, lui qui a été victime d'un problème de volant au départ. Donc il est parti de la ligne des puits et avec plus d'une minute de retard. Et il a fini la course malheureusement à un tour, mais avant-dernier, puisque pour sa première course en F2, le Mexicain Patricio Howard a fini bon dernier. Howard remplaçait le légendaire pilote Maivir Raghunathan, qui a été suspendu pour ce Grand Prix d'Autriche à cause de ses nombreuses bêtises en France, mais aussi durant toute la saison 2019 de Formule 2. Mais Howard a reçu une bonne nouvelle. Il va remplacer Dan Tectum en Super Formula, donc le championnat de monoplace japonais. Puisque plus tôt cette semaine, Tectum, qui est un vice-champion de Formule 3 en 2018 et double vainqueur du Grand Prix de Macao en 2017 et 2018, a été remercié par l'Académie de Red Bull Junior pour ses mauvaises performances en Super Formula. Il n'avait qu'un point en 3 courses avec Team Mugen Honda. Mais revenons maintenant à notre course de Formule 2, la 2e. C'est Sergio Sete Câmara qui a remporté la course sprint de Formule 2 au Red Bull Ring. Une course qui a été marquée par un accident de Louis Deletraz et la remontée de Mick Schumacher qui était parti en fond de grille. Donc, le poleman Jordan King qui avait fini 8e, puisque je dois le vous rappeler, en Formule 2, les 8 premiers de la course 1 ont leur grille de départ, leur position inversée pour la grille de départ de la course 2. Ben King, ayant fini 8e, est parti en pole position. Il n'avait tout simplement pas de rythme et a chuté au 7e rang. Louis Deletraz, lui qui a mené une partie de la course avant d'être dépassé par Sete Câmara, et il était resté proche du Brésilien, a eu un tête-à-queue et a tapé le mur au virage 1, mais évidemment, il a été frustré, et c'était surtout dû à un problème de frein qui a causé son accident et ainsi son abandon. Le meneur au championnat, Nyck de Vries, avait vraiment la chance de s'imposer ce dimanche, dimanche matin. Il avait doublé Deletraz et Jordan King pour prendre les commandes de l'épreuve en début de course, mais il a accidentellement activé le limiteur de vitesse sur sa monoplace et il a chuté au 6e rang. Donc, De Vries est remonté jusqu'au podium, mais Sete Câmara s'est imposé et c'est sa première victoire, lui aussi à Sete Câmara depuis 2017. Et entre-temps, entre sa dernière victoire en 2017 et celle de dimanche au Red Bull Ring, il est monté sur le podium à 13 reprises. Luca Giotto termine deuxième et Guan Yuzhou, le Chinois et membre de l'Académie de Renault, a terminé... il n'a pas terminé troisième. Il a perdu du terrain. Il était troisième en fait, mais il a perdu du terrain. Mais parlons de Mick Schumacher, qui a été la star de cette course, en fait, parce que, je vous rappelle, Schumacher a eu un problème de volant avant même de prendre le départ de l'épreuve lors de la course principale. Il est passé de 18e à quatrième et il était même proche d'inscrire un podium menaçant en fait Nyck de Vries pour ce podium. Mais ça a été vraiment du Mick Schumacher tout craché, capable de montrer ce qu'il est, capable de montrer en fait son potentiel. Je sais que il a beaucoup d'attentes parce que c'est le fils d'eux, mais lui-même le dit, il veut faire une autre saison en Formule 2 pour s'améliorer, mais la course qu'il a faite dimanche, c'est une partie de son talent. Il a montré en fait une partie de son talent en fait. Et parlons aussi du vainqueur de samedi, Nobuharu Matsushita. Il a été certes tassé dans le gravier au premier tour, mais il a fini quand même cinquième, ce qui n'est pas si pire dans les circonstances. Il finit devant Nicolas Latifi, Jordan King et Guan Yu Zhou, donc pour compléter le top 8. Il y a eu un accrochage entre Jack Aitken et Antoine Hubert qui a été provoqué par Aitken. Et cela a coûté aux deux pilotes une chance de marquer des points parce que le top 8 dans la course numéro 2 marque des points en fait. Au classement des pilotes, ben, Nyck de Vries quitte l'Autriche avec 152 points. Nicolas Latifi en a 115, mais voit Sergio Sette Câmara se rapprocher maintenant à 107. Donc, il y a un écart de 8 points entre les deux pilotes d'AMS. Et Luca Giotto en a 97. Donc, attention, si De Vries s'envole pour le titre, ben on pourra avoir une belle bataille pour la deuxième place entre Latifi, Sette Câmara et Giotto. C'est à suivre. De la Formule 2, passons maintenant à la Formule 3. Lors de la course 1, c'est le pilote estonien et protégé de l'Académie Junior de Red Bull, Jüri Vips, qui a remporté sa première victoire de la saison. Il a assisté au duel entre Marcus Armstrong, qui est parti en pole position, et Max Futrell, qui avait pris les commandes de l'épreuve en début de course. Et Vips a sonné la charge pour aller prendre les commandes et ne plus les lâcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, Jahan Daruvala termine quatrième et le meneur au championnat, Robert Schwartzman, a fait du damage limitation en terminant cinquième. Pedro Piquet, Jack Hughes, Zandelli, Pulcini et Verschoor complètent le top 10. Et dans la course 2, ben, Robert Schwartzman et Marcus Armstrong, qui sont tous les deux coéquipiers chez Prema, se sont livrés un beau duel pour la victoire au Red Bull Ring. Mais malheureusement, ça s'est mal tourné, puisque Jake Hughes, sur la HWA Race Lab, a gagné la course. C'est Lirim Zandelli qui a fini 8e. Qui partait en pole position. Hughes a pris l'avantage au départ, mais Zandelli a riposté au fameux virage 3, alors que Pedro Piquet, qui était troisième, lui est tout simplement parti en tête à queue après le premier virage. Et on a eu une belle bataille à 4 entre Armstrong, Schwartzman, Zandelli et Hughes. Et bien que tassé hors piste par Zandelli au virage 3, Schwartzman a fini par se défaire du pilote allemand et de Jack Hughes, qui avait profité de la belle bataille. Et ensuite, Marcus Armstrong, lui, a emboîté le pas. Ensuite, les deux pilotes Prema se sont livrés à un long duel en deuxième portion de course. Armstrong a pris l'avantage au virage 3 lors des 20e et 21e tours, mais à chaque fois, Schwartzman est parvenu à décroiser dans la ligne droite suivante avec le DRS, parce qu'en Formule 3, tout comme en Formule 2, ces voitures ont le DRS. Il y a eu une intervention de la voiture de sécurité virtuelle qui ont dû calmer les deux pilotes Prema jusqu'au dernier tour, où Marcus Armstrong est parvenu à passer devant Schwartzman avant même le freinage du virage 3, mais il y a eu accrochage entre les deux pilotes de l'équipe italienne. Le Néo-Zélandais Armstrong a une crevaison et est sorti des points, alors que le Russe Schwartzman a vu son aileron avant endommagé, mais il a fini la course premier. Mais malheureusement, il a été pénalisé de 5 secondes pour l'incident, donc il a perdu de surcroît la victoire aux dépens de Jack Hughes. Donc, Hughes a gagné devant Jahan Daruvala, l'autre pilote Prema. Donc, Daruvala bat Schwartzman d'un dixième de seconde avec la pénalité du meneur au championnat. Max Futrell, Leonardo Pulcini, Yuri Vips, Liringer Zendeli et Nico Cari complètent le top 8. Au classement des pilotes, malgré tout cela, Schwartzman mène le championnat avec 90 points, mais voit son avance fondre comme neige au soleil, puisque Jahan Daruvala a 82 points. Yuri Vips, lui, brise le triplé Prema avec 63 points, et Marcus Armstrong, lui, en a 54. Tout comme en Formule 1, la Formule 2 et la Formule 3 seront à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et qui sait, peut-être que Maivir Raghunathan sera de la grille de départ de la Formule 2, ou bien même dans le jeu F1 2019. C'est ce qui conclut l'épisode du podcast Le Bulletin F1. Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, le temps que je recharge nos batteries en vue du Grand Prix de Grande-Bretagne. Même chose pour Brian. Donc, on va recharger nos batteries en vue de cette course qui pourrait s'annoncer aussi excitante que l'année passée. Entre-temps, le site web bulletinf1.com est toujours là. Il y aura le Grand Prix, il y aura le bulletin de notes du Grand Prix d'Autriche. Petit indice, il y aura déjà deux notes parfaites. On vous laisse deviner les pilotes qui vont les recevoir. Et on va faire une critique du nouveau jeu de Codemasters, F1 2019, qui est sorti vendredi dernier, soit deux mois plus tard qu'à l'habitude, parce que normalement, les jeux de F1 de Codemasters sortent durant la deuxième moitié de saison, au retour des vacances estivales. Donc, on a déjà commencé à jouer, je suis déjà rendu chez une écurie de Formule 1, je vous laisse deviner laquelle. Si vous voulez continuer la discussion sur l'actualité de la F1, ainsi que sur F1 2019, vous pouvez le faire sur nos comptes Twitter, @lebulletinf1, LEBULLETINF1, et sur Facebook, sur facebook.com/bulletinf1. Je suis votre animateur Abdou Sal et on se retrouve dans deux semaines pour revenir sur le toujours populaire Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Bonne semaine pour tout le monde et profitez du beau temps et de la chaleur, peu importe où vous êtes. Salut tout le monde!